Ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. J'entendais l'autre fois, je cherche un remède contre l'ennui, j'ai trop de temps, je tourne en rond. Ça m'a semblé plutôt étrange d'avoir trop de temps, de peiner à l'occuper. Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul avec soi-même? Eh bien, sortons de chez nous, allons voir ailleurs un peu et ne me demandez pas où est-ce que c'est ailleurs, je n'aurai pas de réponse toute faite. C'est ici et là. Enfin, dans tout ce que j'essaie de vous dire, il s'agit surtout de prendre la porte et de s'aventurer là où on ne l'a pas forcément l'habitude d'aller. Peut-être que mon invité d'aujourd'hui sera plus inspiré que moi, en tout cas, elle saura nous parler nature et plus précisément aujourd'hui du bois de l'huisserie qui annonce un nouveau plan d'accueil des publics pour préserver la biodiversité que l'on sait si précieuse. Donc à mes côtés aujourd'hui, Muriel Kreutzer, vous êtes animatrice pour le Centre d'Initiation Nature. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Margot, merci à vous de m'avoir invitée.
On parlera également de l'agenda du centre puisque on s'est en quelque sorte donné rendez-vous aujourd'hui toutes les deux, mais vous proposez des rendez-vous tout au long de l'année, Muriel, à nos auditeurs et aux Mayennais. On aura le plaisir d'échanger ensemble donc dans quelques instants, mais on ira aussi ensuite à la rencontre de Pierre-Olivier Banouart, conteur mayennais qui sera présent lors de l'avant-goût des contrées ordinaires, le festival des arts de la parole, mais également pour l'avant-goût du festival qui fait sa tournée sur l'ensemble du département. Voilà un programme un peu plus léger aujourd'hui dans cette émission, puisque oui, amis auditeurs, vous écoutez l'AJT du local, c'est sur l'autre radio et je suis Margot. Et ce que je vous disais il y a quelques secondes, je suis avec Muriel Kreutzer, animatrice au Centre d'Initiation à la Nature. Alors Muriel, le bois est devenu espace naturel sensible en 2021. C'est en quelque sorte un réservoir de biodiversité qui abrite de nombreuses espèces protégées. Et donc un nouveau schéma d'accueil au bois de l'huisserie est créé pour faire cohabiter vraiment tous les usages de la forêt en la respectant. Est-ce que tous les bois sont devenus des espèces naturelles protégées ou est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au bois de l'huisserie?
Alors en fait, l'espace naturel sensible, c'est un label qui permet de localiser au niveau du département de la Mayenne, c'est une richesse en fait au niveau du département de la Mayenne, de différents sites identifiés qui permettent de mettre en valeur et préserver le patrimoine naturel, mais aussi de suivre une politique orientée et construite autour de la richesse écologique locale. Donc nous, Bois l'huisserie, on fait partie des ENS du département, mais il y a aussi plein d'autres forêts et bois sur l'ensemble du département qui sont labellisés. Il y a des bocages, il y a des étangs, des grottes, des milieux secs, des rivières, des sites écologiques, des zones humides. Voilà. En ce qui concerne le bois l'huisserie, depuis 2021, effectivement, ça a fait l'objet du coup, cette reconnaissance fait l'objet de l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un schéma d'accueil qui permet de maintenir les activités au plus possible avec les usagers du bois, tout en préservant la biodiversité. Parce qu'au travers des 2 ans passés, on a pu faire un certain nombre d'inventaires qui ont permis de mettre en évidence des espèces amphibiens, des espèces chiroptères, les chauves-souris, des oiseaux qui habitent régulièrement sur le bois. Et si on ne protège pas leur habitat, si on ne protège pas effectivement tout ce qui leur permet de vivre, on va perdre ce patrimoine vivant. Et de fait, à long terme, on va perdre aussi tout ce qui est autour de l'essaimage, etc. Puisqu'en fait, les oiseaux sèment. Donc, indirectement, on perd aussi en qualité alimentaire.
Qu'est-ce qui a été
c'est un raccourci.
Oui, mais c'est vrai, on comprend bien finalement que tout est relié. Quand on parle de la faune, on parle également de la flore. En fait, tout est relié, tout communique. Qu'est-ce qui a peut-être été constaté comme usage du bois qui peut-être mettait à mal justement cette biodiversité?
Alors déjà, ce gros poumon vert urbain, périurbain, a accueilli entre janvier et septembre 2022 80 000 entrées. C'est pas le cumul de entrées-sorties, c'est 80 000 entrées avec des points de comptage à 2 endroits différents. Donc sur ces 2 endroits différents, 80 000 entrées, on est sur 8 mois, on va dire, ça va faciliter les calculs, 10 000 entrées par mois. Et ça, c'est ce qu'on a pu compter. 10 000 entrées par mois sur un 271 hectares, finalement, c'est énorme pour un bois comme celui du bois d'Huisserie, mais la plupart des usagers restent sur les chemins. Donc on a peu ou pas d'impact par rapport à ces éléments-là. Par contre, on a pu mesurer que sur certains secteurs du bois, notamment là où il y a nos espèces d'amphibiens, chiroptères, etc., après des points d'écoute, etc., on a pu mesurer que leur habitat était en danger, dans le sens où il n'y a que la terre, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, puisqu'en fait, certains usages ravinent finalement les petits coteaux. Je parle du secteur est, pour ceux qui connaissent la forêt, qui longe la Mayenne. Effectivement, là, on voit bien que les chemins ne sont plus respectés et qu'effectivement, le chemin d'origine, finalement, on a plein de centes à côté. Et de fait, on va perdre l'habitat des oiseaux notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'ONF, on a une convention de 20 ans et on est sur une régénération naturelle de la forêt. C'est ce qui fait que si le sol est trop piétiné, trop tassé, les fruits qui germent ne vont pas pousser. C'est aussi l'enjeu de limiter certains accès dans la forêt, de façon à permettre au sol de se régénérer avec les feuilles qui tombent, etc. On recrée de l'humus, on évite le piétinement sous-bois dans tout le bois, et en priorité, c'est dans les zones, ce qu'on appelle nous les zones de quiétude. Okay. Alors c'est vrai qu'on a des plans, on a tout un travail avec la communication à mettre en œuvre. On a commencé aussi à travailler avec les usagers directement après avoir eu des temps de concertation. Là, on est vraiment sur la mise en œuvre. On a commencé à mettre en place des réunions d'information. Malheureusement, c'est vrai que les horaires ne correspondent pas, ou quand ils correspondent, les gens ne sont pas informés. Enfin voilà, on trouvera toujours.
C'est jamais évident.
C'est jamais facile. Maintenant, on est là au niveau du bois de l'Huisserie pour entendre, pour informer. Hier, on a pu mettre en place une réunion d'information, notamment par rapport aux usagers canins qui s'interrogent énormément. Alors, les usagers avec des chiens, ce sont les mêmes usagers qu'avec les vélos, ce sont les mêmes usagers qu'avec les cavaliers. En fait, ce sont des usagers du bois. C'est les chemins, c'est aussi pour eux l'obligation effectivement sur les zones de quiétude de tenir leur chien en laisse. Alors certes, toutes les personnes que je croise me disent « oui mais mon chien il est mignon, il est tout plein mignon, il va pas bouger ». Certes, nous on est une collectivité, on s'adresse à l'ensemble des usagers, on met des règles en place pour l'ensemble des usagers. Le chien, s'il répond à l'appel, tant mieux, mais c'est pas toujours le cas. Donc d'où le fait qu'il soit tenu en laisse.
Et en fait,
sur certaines zones, attention.
Ce qu'on peut dire, c'est que l'impact qu'on peut avoir donc sur cette biodiversité, c'est pas forcément des gestes comme effectivement jeter des déchets. C'est-à-dire qu'un simple passage où on a l'impression que c'est innocent, finalement, non, on a un impact juste avec le passage. Vous le disiez, ne serait-ce que
le piétinement. Alors le piétinement, en fait, on s'imagine pas que, par exemple, tout ce qui est amphibien, ils y pondent des petits œufs en dessous des feuilles, pas forcément auprès de la mare directement, et ces œufs sont mis à mal. En fait, on n'aura pas effectivement de descendance de ces petits amphibiens. Le fait est, c'est que quand on piétine, on tasse les terres, l'eau s'infiltre plus, et de fait, comme je le disais tout à l'heure, les fruits ne germent pas. Voilà, on met à nu. Il y a qu'à regarder autour des tables de pique-nique. Voilà, c'est l'exemple le plus flagrant. Pour ceux qui connaissent le bois d'Huisserie, quand vous allez sur les aires de jeu, regardez de près sur l'allée centrale à gauche où il y a les aires de jeu et à droite, et vous verrez nettement la différence. Là, concrètement, c'est du visuel pur et tout le monde peut se rendre à l'évidence que le milieu n'est pas le même s'il y a du passage ou pas du passage. Et chaque fois qu'on emprunte un chemin qui vient juste d'être tracé par, un cavalier, un VTT ou un renard, pourquoi pas.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Eh bien, on met à mal le sol et ça s'élargit de plus en plus, on piétine de plus en plus et effectivement, on tasse les sols. Donc du coup, effectivement, on a cet impact sur le devenir de cette forêt.
Donc c'est... concrètement, ce qui évolue, c'est il y a donc des zones de quiétude et il va falloir être plus vigilant effectivement sur il y a des chemins à emprunter et d'autres qu'on peut apercevoir, mais en fait il faut les laisser tranquilles et, oui. et laisser la nature reprendre
son droit. À cet effet, les équipes techniques du bois l'huisserie vont installer des branchages avec les recommandations de l'ONF. On va installer un certain nombre de branchages. Ces branchages ne seront, faudra pas les enlever puisque c'est fait pour boucher ces chemins. Pour citer un autre exemple, qui n'a rien à voir avec le bois, mais quand on allait dans les dunes au port de la mer, on avait des espèces de palissades en bois. Peut-être que vous allez retrouver ce même type de palissade en bois. Aujourd'hui, on sait que ça a un effet bénéfique au niveau des dunes. Donc on estime que ça aura aussi un effet bénéfique au niveau de la forêt. Tout ça pour garder la forêt sur du 20 ans, parce qu'on est quand même sur un poumon qui permet, c'est un puits de carbone. Et ce puits de carbone, en fait, c'est aussi le devenir de nos enfants, petits-enfants. Donc oui, nous, en tant qu'usagers, aujourd'hui, on a l'impression d'être contraints, on a l'impression d'être, de ne plus être libre de faire ce que l'on veut. Mais pour autant, c'est le devenir, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, quoi ? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ?
L'importance de se sensibiliser, effectivement, et de comprendre, d'aller vers vous, justement, pour comprendre un petit peu, mais quels sont ces enjeux ? Et c'est l'occasion de transmettre, justement, aux plus jeunes pour adopter des bons réflexes.
Les postures, les gestes, l'observation, la curiosité. Et en fait, bon, alors là, je passe sur le plan plutôt du CIN. Pur, hein, avec notre animateur nature Maxence qui va mettre en place des animations. Là, prochainement, vous avez notre agenda sur le site de la Val Aglo. Sinon, vous l'aurez au niveau du centre initiation à la nature. On a une animation là qui va se dérouler le dimanche 29 septembre. Venez reconnaître les arbres et arbustes des haies. Alors, ça se passe pas au bois, ça se passe au Genêt-Saint-Île parce que on se déplace sur l'ensemble de Laval agglomération. On a le jour de la nuit, le 12 octobre, qui va se passer à Louverney. On a les 5 sens dans le bois. Alors ça, c'est une animation qui est très appréciée, des petits, mais aussi des grands, des adultes. C'est une animation qui nous permet d'utiliser tous nos sens pour découvrir notre environnement. Et quand c'est Maxence qui le fait, c'est génial parce qu'en fait, on comprend en fait les enjeux finalement en lien avec la biodiversité et l'humain. Enfin, comment on interagit avec notre environnement pour faire en sorte de le préserver. On a qui est passé par là, le monde des champignons. Animation bout de chou, ça c'est un 0-5 ans où en fait on commence avec les petits à chercher les petites bêtes, à sentir, à observer. Et c'est pareil avec les parents, on travaille aussi sur comment faire pour que nos enfants ne récupèrent pas plein de plumes, plein de bois, plein de pierres, les ramènent à la maison qu'on ne sait pas qu'en faire, alors que ce sont des éléments qui appartiennent à la forêt et qu'il est important de laisser à la forêt. Et là, on explique le pourquoi, entre autres. Tout un programme que vous allez pouvoir retrouver. Et puis aussi la dernière de nos paysages de biodiversité, qui est une exposition qui sera ouverte de 14h à 17h tous les jours sauf le samedi, du 21 au 31, qui permet de découvrir les 7 écosystèmes qu'on a sur la Val Aglo au travers de ce qu'on appelle des dioramas. C'est des reconstitutions maquettes, on va dire, mais ça fait un 3 mètres par 3 mètres, donc il y a de l'espace, avec des animaux naturalisés, des anecdotes, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire pour le préserver. Et des photos, et des jeux aussi d'expérimentation sensorielle. Je vous invite à venir nous voir parce que vraiment, cette exposition elle a été montée avec le Musée des sciences et les animateurs naturalistes du CIM. Et franchement, on n'a que des échos positifs. Donc voilà.
Donc on peut rappeler jusqu'à quand elle est visible ?
Du 21 octobre au 31 octobre. Après, on la démonte. On passe à un autre sujet pour l'année prochaine. En ce moment, là, pour les classes, on a la possibilité de s'inscrire via un lien Cali. N'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées, je vous transférerai le mail pour vous voir cette exposition ou pour avoir des animations de sensibilisation justement à préserver notre forêt. Les écoles, les groupes qui appartiennent à Laval Aglo, enfin appartiennent, qui sont sur le secteur de Laval Aglo.
C'est ça.
Alors je précise que le Centre Initiation à la Nature, c'est un service du département Nature et Ville de Laval Agglomération. Et quant à moi, je suis animatrice, mais tout court, je suis pas naturaliste. Mais je travaille depuis très longtemps dans l'animation, j'interviens sur la partie agenda, schéma d'accueil, événementiel, enfin voilà. Un peu tout ça.
Et donc, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que toutes ces activités, ces rencontres dont vous nous avez parlé, elles sont très accessibles.
Tout à fait.
Au niveau tarif.
Tout à fait. Alors là, pour l'instant, on est sur une tarification. Alors, pour Boutchou, on est passé par, justement, le conseil départemental à un livret ENS, hein, espace naturel sensible. Et donc, du coup, nos animations sont gratuites. Par contre, ça nécessite pour toutes les animations, sauf l'expo, une préinscription obligatoire auprès de environnement@aglo-laval.fr ou sur notre répondeur 02 53 74 11 50. Sinon, les animations sont au prix de 2 euros par personne. Donc je pense que voilà,
oui, totalement accessible.
C'est assez accessible. Il y a quelques animations qui vont être gratuites, qui étaient annoncées payantes, mais qui vont être gratuites. Et ça, on vous le dira quand vous vous inscrirez.
Et alors, tout au début de cet échange, on avait dit le mot curiosité. Je me pose la question, est-ce que les enfants, justement, aujourd'hui, vous remarquez dans leurs réflexes, dans leurs pratiques, est-ce qu'il y a une évolution où vous les sentez peut-être un peu plus vigilants, attentifs à cette nature? Ou est-ce que, bon, il y a encore du travail quand même à faire largement?
Alors, on a encore du travail. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes enfants, enfin d'enfants lavallois qui viennent au bois, mais on se rend compte qu'en fait, ils ne viennent pas en famille. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, eux-mêmes pourraient voir avec leurs parents, comment dire, à fréquenter ce bois qui reste quand même un emblème sur Laval, enfin je pense. Au même titre qu'on a la Périne.
C'est vrai, c'est vrai.
Au même titre qu'on a le Bois Gamma aussi.
Exactement.
Là, on a un espace quand même où vous allez retrouver un parcours de santé. Alors ça, les enfants, en général, le connaissent par cœur. Les adultes aussi, puisqu'on le fréquente depuis presque 30, 35, 40 ans. On a ce qu'on appelle un parcours de découverte. Donc, ils le redécouvrent en fonction de leur âge. Et pour répondre à votre curiosité, à l'aspect curiosité, eh bien là, oui, ils vont s'approprier ce qu'ils ont pu voir sur différentes animations qu'on leur a proposées dans le cadre des centres de loisirs. Et de fait, ils vont pouvoir évoluer avec ce parcours parce qu'en fait il y a des choses qu'on voit à 4 ans, c'est pas du tout la même chose à 6 ans et à 8 ans. Et ça m'amène aussi à une réflexion. Ce matin, on avait une enseignante qui nous demandait d'intervenir auprès des petites sections, moyennes sections. Alors c'est vrai que nous, on a des mâles pédagogiques sur lesquels les enseignants peuvent s'appuyer et effectivement on n'est pas sur le même public et les mêmes approches que sur un public grande section à lycée quoi. Enfin, même s'il y a des différences entre chaque tranche d'âge, là c'est vraiment très particulier, mais c'est tout petit qu'effectivement on attise leur curiosité et c'est en faisant des piqûres de rappel régulières avec des évolutions sur les sujets évidemment qu'on va pouvoir inscrire finalement cette curiosité dans le quotidien et faire en sorte que les enfants deviennent des adultes responsables, mais que ça soit intégré en fait finalement, que la nature soit intégrée dans leur histoire, leur parcours, c'est leur patrimoine naturel. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le patrimoine naturel de l'autre, quoi. Alors que non, aujourd'hui...
c'est une contrainte. On pourrait presque entendre, effectivement, il faut faire des efforts, c'est une contrainte de prendre soin de la nature et finalement...
Alors que non, c'est... Enfin, voilà, si on veut durer dans le temps, oui, il faut agir aujourd'hui. La curiosité des enfants, elle ne doit pas s'éteindre parce qu'effectivement, il y a des enjeux autres à côté, je vais dire économiques, entre autres.
Bien sûr. Bon. Pour terminer cet échange, j'ai envie de vous demander, Muriel, vous savez, on est quand même dans une société où le rythme va très vite, où on est très sollicité par nos petits rectangles qu'on a dans nos poches ou dans nos mains un peu en permanence, et où on en oublie presque d'écouter, de regarder, d'être attentif, de se laisser surprendre par tout ce qui se passe autour de nous, même jusqu'à l'infiniment petit, ce qu'on évoque un petit peu en forêt. Peut-être qu'on peut ensemble dire à nos... Si un auditeur nous écoute, puis se dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas été emmener mon enfant ou moi-même seule en forêt... Comment voilà, dans les premiers pas qu'on peut faire en forêt, comment peut-être à quoi penser pour finalement bien profiter de tout ça? Ça alors, paraît des conseils simples et finalement je crois que c'est pas si simple et évident que ça.
Alors en premier lieu, je vais vous faire l'histoire du parcours des cinq sens en direct, sans les cinq sens. Bon, déjà vous posez votre vélo, votre voiture, enfin voilà. Vous allez aller au niveau de l'angle du crapaud. Vous allez prendre la grande allée. Et là, vous allez cheminer, mais en regardant en l'air. Vous observez, et vous avancez, et vous observez en l'air tout ce que vous pouvez voir. C'est pas une habitude innée de regarder en l'air quand on marche. Vous allez ressentir des choses. Et vous allez entendre des choses que vous ne verriez pas si vous allez sur le chemin en regardant au sol. Dans un deuxième temps, vous allez fermer les yeux. Et là, vous écoutez et vous ressentez. Quand je dis ressentir, c'est parce qu'il n'y a pas que les oreilles qui entendent. Il y a la peau aussi qui ressent. Et puis, vous allez continuer votre chemin et vous allez chercher des objets de couleurs et de formes différentes, mais sans cueillir, sans arracher au sol. Vous n'avez le droit de ramasser que ce que vous pouvez enlever sans arracher. Pas facile de trouver du jaune, du blanc, du rond, du lisse, du rugueux, du pointu. Je ne peux pas vous faire goûter, mais peut-être vous allez sentir toutes ces odeurs qu'on peut ressentir quand on ferme les yeux. Encore une fois, on ferme les yeux. Ensuite, avec tous les objets que vous avez ramassés, vous allez créer un dessin au sol de tout ce que vous avez vu et remplir avec les objets ramassés ce dessin. Et là, vous verrez des petits insectes qui vont se promener et venir se nourrir ou se loger dans ces objets. Le petit bâton de bois, il va leur servir. Bon, voilà, c'était un court extrait, mais ça dure deux heures normalement.
Oui, et donc ça nous donne tout de suite envie d'y aller. Je trouve que déjà le temps se ralentit. Donc nous, on est dans un studio, mais on aurait envie d'avoir tous ces arbres autour de nous et puis cette nature. Parce que
c'est un puits.
On oublie, des fois on arrive, on a encore toutes les choses en tête de la journée, et finalement, prendre le temps de se rendre dans ces lieux-là, et puis d'y être attentif et d'être vraiment là, finalement, c'est important d'être présent, c'est ça.
On s'enracine, et là, juste pour me permettre un dernier petit message sur le schéma d'accueil, c'est vraiment pour profiter au mieux de tous ces éléments naturels qu'on incite les gens à rester effectivement sur les fameux chemins, mais qui sont pleins de découvertes.
Merci beaucoup Muriel d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un échange très très riche pour nos auditeurs et pour nous. Merci beaucoup. Eh bien, on continue dans quelques instants à la JT du local. Je vous disais, on ira du côté des contrées ordinaires à la rencontre de Pierre-Olivier Banouart. Et maintenant, j'ai envie de vous faire découvrir un morceau que j'ai découvert aujourd'hui, qui me plaît bien. Ça s'appelle Number One de Blasé. Écoutez.
Why does it feel like you're so far when you were so near?
Écoutez l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et alors on continue aujourd'hui, on continue et on termine même notre série de portraits de conteurs et de conteuses qui seront présents lors des contrées ordinaires ou lors de l'avant-goût des contrées ordinaires. Aujourd'hui on rencontre Pierre-Olivier Banouart qui sera présent à l'avant-goût mais également lors du festival. Écoutez.
Mon grand-père me racontait des histoires quand j'étais petit à la ferme et puis j'ai oublié ça. Et par contre, très tôt, j'ai voulu faire du théâtre. J'avais une douzaine d'années et je me suis lancé dans le théâtre et la mise en scène. C'est autour de 30 ans, après 10 ans de théâtre à Paris, que j'ai découvert vraiment ce qu'on appelle l'oralité, les traditions orales. J'ai rencontré des griots en Afrique où j'ai travaillé. Je me suis aperçu que je n'avais pas besoin forcément, c'est bien quand il y en a, mais d'une scène, de projecteur, d'un décor, d'un costume pour faire mon métier, quoi, pour faire le job. On peut s'asseoir sur un tabouret dans un coin de cheminée et ça marche. Ça participe d'une magie un peu humaine, c'est-à-dire qu'on a des facultés qu'on a oubliées, mais l'imagination, c'est un muscle. Dès qu'on se branche à ça, c'est comme réapprendre à rêver. Henri Gougaud, qui m'a appris le métier, disait qu'on touche chez l'autre le lieu depuis lequel on parle en soi. Si je parle avec ma tête, comme un journaliste qui fait de l'information, je touche la tête. Si je parle avec le cœur, je touche le cœur. Et que l'énorme travail, s'il y en a un, c'est effectivement de défaire tous les obstacles qui vont nous permettre de toucher le cœur de l'autre qui est en face, d'entrer dans leur relation. Et alors là, la magie peut s'opérer. Le conte est un média qui permet vraiment autant de toucher l'intime de l'être que le collectif. Là où le théâtre se tourne énormément vers le social et le collectif, le conte peut permettre vraiment de faire la part des choses et de rétablir des équilibres en nous. Où suis-je, moi ? et l'autre, où est-il? Et comment on peut vivre ensemble? Et plutôt que des discours politiques, le conte, il passe par le merveilleux, parfois, il passe par l'imaginaire, pour retisser en nous du vivant. Des forces de lien qui ne passent pas justement par l'intellect, mais par ailleurs.
On te découvrira notamment avec le conte « L'arbre qui plantait des contes ». Ce sera le 1er octobre à la salle des fêtes d'Andouillet à 20h. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots sur ce conte-là?
Ben, c'est qu'arrivant comme ça sur le territoire mayennais, je suis pas né loin, je suis né dans l'Orne, à Argentan, mais j'ai découvert dans le bocage des légendes et des contes vraiment fascinants. J'ai sorti quelques-unes de ces histoires du bocage et je me suis amusé à en faire comme ça, à retrouver la tradition des contes de village et à inventer une fresque de personnages, de portraits qui vont peut-être nous permettre, avec ces vieilles histoires d'autrefois, de menhirs et de chapelles, d'interroger, de questionner, de renvoyer en miroir notre temps présent à nous. C'est ça aussi l'ambition, là, c'est de parler de nous aujourd'hui, mais par des chemins détournés. Et notamment grâce à la vieille arbre remarquable de Saint-Mars-sur-la-Futaie, puisqu'on a en Mayenne, nous, l'arbre remarquable le plus vieux de France, depuis 2000 ans qu'elle est là, l'aubépine au pied de la petite église. Et je pars du principe, et je ne l'invente pas, que je me suis allongé à ses pieds, que je me suis endormi contre sa souche et qu'elle m'a raconté toutes ces histoires que je rapporte. Il ne s'agit surtout pas de donner des leçons de vie, mais d'être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du sensible, de partager du sensible. C'est aussi pour ça que je suis allé chercher ces histoires, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie, c'est un concept formidable, mais on a complètement perdu notre relation au territoire. C'est-à-dire que je crois que quand les villes cesseront d'être des cités dortoirs et les campagnes simplement des garde-manger pour les villes, tout ça nous rattachait. Nous enraciner dans un territoire. Mon ambition à moi, c'est de nous rendre sensibles vraiment à l'environnement en repassant par la force de sens qu'on leur a toujours donnée. On a besoin d'histoire, on a besoin de récits. On ne peut pas regarder un paquet de céréales sur la table au petit déjeuner sans qu'il y ait des choses écrites dessus. La radio, la télé, les réseaux, Internet, tout est histoire. Il y a une différence avec ces histoires-là, avec les mythes, les contes, les légendes. C'est que ce sont des histoires qui ont été nourries et portées par la seule parole humaine et qui donc nous élèvent. On peut utiliser la parole et les mots et le verbe pour nous diviser, pour nous séparer. La politique ne sait faire que ça, retrancher dans le vif. Là où justement le théâtre et les arts vivants nous réapprennent à respirer ensemble. C'est pas le même chemin justement. C'est pas le même chemin. Les contes de la ruche, j'ai collecté il y a quelques années dans le monde entier des histoires qui avaient l'abeille ou le miel comme motif ou comme sujet, puisqu'on a découvert que l'abeille et son miel seraient peut-être la première emblème de toutes les traditions spirituelles, chamaniques et religieuses de l'humanité. L'abeille transformant en miel l'équivalent de la sagesse pour les sages, comment la parole va transformer en miel la connaissance. Et donc j'ai collecté de ces histoires partout dans le monde, j'en ai fait un recueil publié chez Albin Michel. Et donc le spectacle est tiré de ce recueil et c'est donc comme ça cette 8 histoires que je rapporte sur scène.
Une toute dernière date donc qui va vraiment être sur le temps du festival, ce sera La queue du diable. Et alors là, voilà, on est vraiment sur peut-être une version du conte qui te plaît particulièrement, puisque c'est pour adultes et ados à partir de 12 ans.
La queue du diable, c'est un spectacle qui a été créé en 2017, c'est-à-dire juste avant MeToo. Je suis en train de le mettre à jour, puisqu'il y a une dimension anthropologique dans le spectacle qui non seulement rapporte des contes traditionnels sur... Le mot paillard n'est pas juste, le mot grivois non plus, mais en tout cas qui parle du désir d'en bas, on va dire, et de l'effervescence des sens et des rencontres. Et au milieu de ces histoires, je raconte comment les hommes, les femmes d'autres cultures de par le monde se rencontrent, se séduisent, comment on considère l'homme, comment on considère la femme, puisqu'on est un peu crispé quand même en ce moment, hein, sur ces choses-là. Il y a de la tension dans l'air. Et comment on pourrait retrouver des chemins pour s'enchanter à nouveau autant le cœur que le corps. C'est de la joie qu'on essaye de semer sur la route, là, au contraire ordinaire, avec ce spectacle-là aussi. Le conte permet ça, vraiment de toucher des espaces en nous inhabités ou qu'on a perdu l'habitude de fréquenter.
Dans cette émission, cette semaine, on vous a annoncé la venue du spectacle de danse Safe Zone. Aujourd'hui, au Théâtre des Trois Chênes à Loire-en-Ruillet, cette représentation est annulée car une danseuse s'est blessée. Alors, cette représentation, d'ailleurs, n'est pas vraiment annulée, mais reportée à plus tard dans la saison. On vous tiendra au courant, n'hésitez pas également à vous renseigner auprès du Théâtre des Trois Chênes. Voilà, on termine l'émission maintenant. Merci à Muriel Kreutzer d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça continue sur nos ondes avec La Sagesse de Tug qui fait sa rentrée à 19h aujourd'hui. C'est notre émission un peu philo. Et aujourd'hui, l'émission pose une question. L'artiste est-il maître de son travail ? Voilà, une très belle question pour commencer la soirée ce jeudi. À 21h, ça sera plus musical avec l'émission All Blues, animée par Bruno. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Demain, on termine la semaine avec le grand format. Un très beau portrait, une rencontre avec Julien et son fils Robin, 12 ans. Tous deux nous emmèneront en balade, en nature, pour découvrir les libellules, les oiseaux. Vous verrez. En tout cas, soyez là et attentifs. Et s'il vous plaît, vous le savez, faites-le. Bien.
C'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.